Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Bienvenue à tous sur RMC.
C'est samedi et il est tout pile 7h. Le journal avec vous, Stéphane Genest, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera jugé pour favoritisme en novembre prochain. À cette information du service police-justice de RMC, 20 kilos d'héroïne pure saisie à Lyon, 5 personnes toujours en garde à vue. Et cette scène à peine croyable dans un stade de foot hier soir, scène qui gâche la fête de la dernière journée de Ligue 2, un supporter bordelais est allé agresser en plein match un joueur de l'équipe de Rodez.
Juste après votre journal, à 7h10, à vous de nous dire, beefsteak, rôti, poulet, avez-vous l'impression de manger trop de viande? On en consomme 2 fois plus que la moyenne mondiale. Vous réagissez au 32-16.
La matinale week-end.
D'abord Olivier Dussopt, convoqué donc devant la justice, ce sera fin novembre.
Le ministre du Travail qui sera jugé pour favoritisme par le tribunal correctionnel de Paris. Alors qu'il était maire d'Annonay, en Ardèche, Olivier Dussopt est soupçonné d'avoir favorisé la SOR. La SOR, c'est l'un des géants français de l'eau lors de l'attribution d'un marché. On revient sur cette affaire avec vous, Solène Leroux.
En 2020, le parquet national financier lance une enquête pour prise illégale d'intérêts et corruption. La raison, en 2017, Olivier Dussopt s'est fait offrir 2 œuvres du peintre Gérard Garouste par un dirigeant de la SOR. Alors qu'au même moment, un contrat était sur le point d'être conclu à Annonay, ville d'Ardèche dont Olivier Dussopt était alors le maire. Les soupçons de corruption dans cette affaire sont finalement écartés par le PNF en raison de la valeur des œuvres, 2000 euros. Mais ces investigations ouvrent une brèche. Le parquet remarque que les relations entre le géant de l'eau et Olivier Dussopt ne se limitent pas à ce cadeau. Des échanges compromettants sont retrouvés chez lui après une perquisition. Ils concernent l'attribution d'un marché public, toujours à Annonay, mais cette fois en 2009. C'est sur cette unique accusation que le ministre du Travail sera jugé du 27 au 30 novembre.
Olivier Dussopt qui se défend. Justement, il affirme qu'aucune corruption ne lui est reprochée. La ministre du Travail qui garde toute la confiance d'Elisabeth Borne, la chef du gouvernement. Le gouvernement qui précisément a réussi à convaincre l'agence de notation Standard & Poor's. Elle a rendu son bulletin sur la France cette nuit et maintient la note de AA pour le pays. Alors concrètement, ça signifie que la France a une forte capacité à rembourser sa dette. L'exécutif qui est soulagé, hein, car il était question que cette note soit abaissée.
7h02 sur RMC. On en vient à présent à ces témoignages qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Les comportements déplacés et délictueux de chauffeurs de VTC.
Et précisément l'histoire de Kiera, cette jeune femme qui a porté plainte pour enlèvement et séquestration contre un conducteur VTC qui travaillait chez Bolt. L'entreprise précise que ce chauffeur a été suspendu. Pour autant, cette affaire montre bien qu'il faut davantage de contrôle. C'est ce que demande justement Brahim Ben Ali à la tête du premier syndicat de chauffeurs VTC du pays.
C'est des cas qui malheureusement sont répétitifs. Ça fait des années que moi j'alerte. Ça fait des années que j'engage la responsabilité des plateformes et celle du gouvernement aussi. Puisque j'ai dit à ma entreprise qu'il fallait contrôler les effectifs et regarder aussi le profil de ces effectifs-là. Parce qu'il y a derrière, de l'autre côté, malheureusement, ça porte préjudice aux vrais collègues qui exercent dans de bonnes conditions. Et de l'autre côté, vous avez des chauffeurs qui n'ont pas été formés, on ne sait même pas d'où ils viennent. Les enquêtes sont très très longues et du coup, ils ont le temps, eux, de se réorganiser. Donc, je ne suis pas étonné, moi.
C'est une information que RMC vous révélait dès hier. Un vaste trafic d'héroïne qui vient d'être démantelé près de Lyon. 20 kilos d'héroïne pure qui ont été saisies avec des armes, Guillaume Bien.
C'est dans un entrepôt de produits halal en pleine zone industrielle que les policiers de l'OFAST ont découvert un laboratoire d'héroïne. À l'intérieur, 20 kilos de drogue pure et 70 kilos de produits de coupe. Les trafiquants ont été arrêtés en pleine préparation. Parmi eux, un homme de 55 ans soupçonné d'être le chimiste de la bande. Il a fallu des mois d'enquête minutieuse aux policiers pour identifier les protagonistes de nationalité turque, tous déjà connus notamment pour trafic de drogue. Au total, 5 suspects et une demi-douzaine d'armes saisies. Un trafic d'héroïne piloté par un 6e homme vivant en Turquie et qui, lui, n'a pas été arrêté. À la revente au détail, la drogue qui était en train d'être préparée aurait pu rapporter aux trafiquants plus de 2,5 millions d'euros.
Guillaume Biège, chef du service police-justice de RMC.
Un mot de l'actualité internationale. Avec cette catastrophe ferroviaire en Inde,
au moins 288 personnes sont mortes dans une collision entre trois trains hier soir dans l'est du pays. Bilan qui est toujours provisoire, hein, puisque les secours continuent de rechercher des survivants et de ramasser les corps pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Près de 1000 personnes ont été blessées.
RMC, il est 7h05. Et les sports avec la montée en Ligue 1 du Havre et de Metz.
Incroyable dénouement en Ligue 2 hier soir. Ce sont donc les Havrais et les Messins qui sont promus. Et ce qu'il faut retenir ce matin, c'est ce geste bien au-delà de l'irréel sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. Un supporter des Girondins est descendu sur le terrain pour frapper un joueur de Rodez après avoir marqué un but. Lucas Boedes qui souffre d'une commotion cérébrale. Le match a donc été finalement arrêté. La commission de discipline de la LFP statuera lundi après-demain sur le sort de la partie. Écoutez le président des Girondins, Gérard Lopez.
Pour préserver les droits du club et l'institution, on va porter plainte contre l'individu. Il est clair aussi que j'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain. Ça reste du foot. On sera lundi, bien sûr, présent en commission. On fera valoir tous nos droits. On a quand même 42 000 personnes dont je suis très fier parce qu'elles sont parties en fait dans un calme absolu, alors que c'est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup d'autres clubs.
Voilà pour la Ligue 2. En Ligue 1, dernière journée du championnat aussi, avec la dernière de Messi au PSG et de Christophe Galtier.
Ouais, dernière ce soir, ultime rencontre à la tête de l'effectif parisien. Ce sera contre Clermont après juste un an sur le banc du PSG, Morgan Maury.
Le mariage entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain n'a jamais connu de lune de miel. Divorce acté en moins d'un an, passé des premiers mois corrects, Galtier a navigué de turbulence en turbulence. À la fin de l'hiver, Paris est sorti sans discussion par le Bayern Munich dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au printemps, des soupçons de racisme lorsqu'il était entraîneur de Nice remontent à la surface. Le technicien a assuré le titre en Ligue 1 et c'est tout. Pas de Coupe de France non plus après une élimination contre Marseille. C'est très léger. Paris n'a jamais trouvé son style, souvent dépendant des exploits de Kylian Mbappé. La marche était-elle trop haute pour Galtier, qui ne connaissait pas une telle altitude en termes de pression et de star dans l'effectif? Le Paris Saint-Germain va donc se mettre en quête du 8e coach de l'ère Qatari. Aucun nom n'est encore arrêté. La stabilité attendra.
PSG Clermont, c'est à 21h, tout comme les 9 autres rencontres du jour, avec notamment Nantes qui joue son avenir ce soir en Ligue 1 en recevant Angers, les Canaries qui risquent la relégation. Et puis un petit mot de tennis avec la qualification en 8e de finale de Roland-Garros de Novak Djokovic hier. Pareil pour le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Aujourd'hui, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek affronte Wang Xinyu. Rencontre que vous vivez évidemment sur RMC, mais aussi sur notre radio digitale. RMC 100% terre battue dispo sur l'appli RMC.
Évidemment. Et pour terminer ce journal, Stéphane, cette situation ubuesque près de Caen, à Éperon, une rue compte combien? 10 panneaux stop en 200 mètres.
Résultat, on n'avance pas, on reste. Reportage sur place, Solène Gardry.
Presque plus de panneaux stop, mais il y a toujours la signalisation jaune sur la route. Alors certains s'arrêtent, ou d'autres, comme Benjamin.
Pas toujours, on s'arrête pas forcément, mais on ralentit.
Car autant de panneaux sur quelques centaines de mètres, c'est beaucoup trop, réagit ce riverain.
Ils peuvent en mettre tous les 2 mètres pendant qu'ils y sont. C'est vrai qu'il y en a des fois qui font une petite pointe de vitesse, donc 1 ou 2 stops, ce serait judicieux. C'est contre-productif d'en mettre autant à si peu d'intervalle.
Les commerçants craignent même pour leurs affaires, comme l'explique Julien Lemaître, installé au début de la rue.
On a le retour des clients qui arrivent, ils disent « mais c'est quoi ce délire ?» Je me suis fait avoir, là, j'ai grillé le premier parce que je m'y attendais pas du tout. Là, nous, ça nous embête franchement, parce que si c'est pour une fois de plus que les gens viennent de moins en moins ici, bah, je vois pas l'intérêt d'avoir monté un commerce là, quoi.
Le maire d'Éperon, Franck Guéguenia, rappelle que le projet répond à de vraies plaintes de riverains.
On est sur une expérimentation. L'objectif était déjà de casser la vitesse, puisque les priorités à droite n'étaient pas respectées. On essaye de trouver la meilleure solution. La meilleure des solutions serait que les gens aient un comportement civique au volant. Ça nous éviterait de tomber dans ces excès.
Quant aux panneaux manquants, ils ne seront pas remplacés de suite. Le fournisseur est en rupture de stock.
J'en reviens pas. 10 panneaux
c'est dingue.
En 200 mètres. Non, mais on parlait du partage de la route tout à l'heure.
Ah, c'est le cas, ouais.
Bah voilà la solution. Tu mets 10 panneaux stop sur 200 mètres, là, t'as plus personne qui passe. Au moins, la route, elle est
voilà,
bien partagée.
Ça va coûter cher aux contribuables, mais pourquoi pas.
Merci beaucoup Stéphane Jeunesse, on se retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À 8h. Et vous restez là, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 9h dans la matinale week-end. Tiens, on va parler de ce qu'il y a dans nos assiettes. Nous mangeons trop de viande.
Il paraît.
Contrairement à ce qu'on croit, parce que tout le monde se dit « Non, j'ai réduit ma consommation, j'en mange moins qu'avant. » Eh bien,
Les derniers chiffres qui sont publiés dans le journal Le Monde prouvent que on continue d'en manger trop, parfois sans s'en rendre compte. C'est combien, Marguerite? Deux fois plus que la moyenne mondiale en France?
Exactement, et je crois qu'on est à 85 kilos par an, un truc énorme.
Est-ce que vous avez l'impression de manger trop de viande? Au contraire, est-ce que vous avez diminué votre consommation? C'est à vous de nous dire, et c'est dans deux minutes sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Allez, bon réveil, profitez bien du soleil parce que ça fait plusieurs jours qu'il est là et ça fait du bien en ce mois de juin. Nous sommes le samedi 3, il est 7h12, vous êtes sur RMC et c'est l'heure de vous écouter.
RMC, à vous de nous dire.
Depuis 24 heures, on vous interroge sur notre compte Twitter. Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour.
Avez-vous l'impression de manger trop de viande? Je ne pose pas la question à vous, mais généralement.
Voilà. C'est justement ce qu'on a demandé hier à des clients à la sortie d'une boucherie à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne.
Moi, je n'arrive pas trop à m'en passer. Une fois tous les deux jours, on va dire à peu près.
Moi, c'est 3-4 fois par semaine, pas plus, à midi. On est vraiment tout à fait spécial en France. On a l'impression que les gens, s'ils ne mangent pas de la viande, ils n'ont pas mangé.
Et si on a choisi de vous poser cette question ce matin, c'est parce que nos confrères du Monde révèlent des chiffres qui nous interpellent et qui prouvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que les Français mangent toujours plus de viande. La consommation totale en France a augmenté de 50% entre 1970 et 2022. Alors vous allez me dire que c'est parce qu'on est plus nombreux. Eh bien, c'est pas la seule raison, puisque la consommation individuelle augmente elle aussi, après des années de baisse, plus 3% depuis 2013, et même plus 16% pour la volaille. Je vous donne un dernier chiffre. 85 kilos, c'est la quantité de viande qu'on mange chaque année. Alors si c'est dans la moyenne européenne, eh bien ça reste deux fois plus que la moyenne mondiale.
Est-ce que vous nous racontez, c'est quand même assez contre-intuitif, parce que quand on interroge les Français, on a l'impression qu'ils sont de moins en moins nombreux à manger beaucoup de viande.
Oui, un Français sur deux dit avoir réduit sa consommation, un quart d'entre eux dit même avoir adopté un régime flexitarien à base de protéines végétales et de temps en temps de protéines animales. Il y a donc bien un écart entre la perception et les chiffres que je vous ai donnés juste avant. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, les experts de l'alimentation pensent qu'il y a bien un changement de mentalité, mais qu'il ne se traduit pas encore dans l'assiette. Et puis il y a surtout un autre facteur qui rentre en jeu, c'est la consommation cachée de viande, car oui, on achète moins de pièces de boucherie. En revanche, on achète plus de sandwichs à l'extérieur, plus de plats préparés ou transformés, des produits qui contiennent eux aussi de la viande, et les Français l'oublient sans doute au moment de participer au sondage.
Et pourtant, la consommation de viande, c'est un enjeu de santé publique.
Oui, manger trop de viande, et notamment trop de viande rouge, est mauvais pour la santé. Le Programme National Nutrition Santé recommande d'ailleurs de limiter la consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine et 150 grammes pour la charcuterie. Un Français sur deux dépasse cette préconisation pour la viande rouge, 1 sur 3 pour la charcuterie. Alors pour arriver à cet objectif, depuis 2021, on expérimente dans les cantines les menus végétariens hebdomadaires, mais ça ne représente que 5% de l'ensemble des repas pris. Les experts appellent donc à des mesures fortes.
La consommation de viande, c'est aussi un enjeu climatique, rappelons-le.
Oui, et si la France veut atteindre ses objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050, un récent rapport de la Cour des comptes qui a fait beaucoup réagir préconise de planifier la baisse de la taille des exploitations, et notamment des cheptels de bovins, des exploitations responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre.
Alors maintenant, c'est à vous de nous dire, est-ce que vous avez l'impression que vous mangez trop de viande?
Eh bien, vous répondez non à 80%. Ah. Vous n'avez pas l'impression d'en consommer trop. Chris a réagi à notre consultation RMC sur Twitter. J'en mange moins vu le prix. Christian, lui, a complètement arrêté d'en consommer il y a 20 ans sous toutes ses formes.
Stéphane nous dit aussi sur l'appli RMC, j'ai 58 ans et j'ai réduit ma consommation de viande de manière importante. Plus la semaine et plus de fast-food.
Ah bah ça, c'est une bonne idée. En plus, c'est pas forcément la meilleure viande parce qu'elle est entourée par du gras. Mais c'est un bon exemple.
Moi, c'est le truc que je retiens de ce que vient de nous dire Margot, c'est qu'on oublie qu'on en mange avec les fast-food, avec les sandwichs. C'est vrai que, bah oui, mais si.
Oui, enfin bon, c'est quand même qu'on mange la
viande. Ah, mais quand t'achètes la côte de bœuf,
c'est plus évident.
Pas, ah oui, cette semaine, je me suis fait un McDo. Pierre-Philippe est avec nous dans l'Ain, chef de cuisine. Bonjour Philippe.
Oui. Bonjour Mathieu et toute l'équipe.
Comment ça va Philippe?
Super bien.
Beaucoup de viande à la cantine? Alors, de moins en moins.
Alors, moi j'ai réduit les grammages pour améliorer la qualité.
Ah, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que je suis passé du steak haché de l'agroalimentaire à un steak haché qui est fait avec ce qu'on appelle le Langus, qui est fait à Vendin, dans l'Ain, à côté de mon collège. Mm-hmm. J'ai réduit de 10%, mais par contre, ils ont une qualité supérieure.
Donc au lieu d'avoir 110 grammes, il n'y a que 100 grammes dans l'assiette.
Mais de la qualité supérieure.
100% muscle.
Voilà. Alors par contre, il y a un truc où je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les cantines et le végétarien. La loi Egalim, qui a été faite par des gens qui n'étaient pas uniquement des cuisiniers, on le voit, nous oblige à faire du végétarien pour les gamins, mais enfin, c'est pas pour tous les gamins, on doit le proposer aux gamins.
Oui, ils ont le choix, c'est ça?
Mais le problème qui se passe dans nos établissements scolaires, c'est que les 90% des établissements scolaires imposent le végétarien, qui n'est un végétarien issu de l'agroalimentaire, qui est une cochonnerie immonde.
Et oui. Et donc ils le mangent
pas. Moi, je propose deux fois par semaine à ceux qui sont volontaires, mais je ne fais que du tout maison.
Et ça marche ou pas? Ça marche mieux?
J'ai entre 40 et 50 gamins qui prennent du végétarien deux fois par semaine.
C'est pas mal.
Ça fait à peu près 10%, un peu plus de 10% de mon effectif.
Bah, mais parce que vous faites du fait maison.
Mais oui, si vous la goûtez cuisine, le végétarien, les galettes végétales qu'ils nous font là, ou à base de céréales ou de tofu, mais c'est immonde.
Ouais, non, mais je suis d'accord. J'ai déjà goûté, franchement, c'est compliqué.
Quand vous donnez ça, vous obligez ça aux gamins. Il y a des établissements où ils donnent ça. 100% de leurs gamins, vous ne pouvez pas attirer les gamins vers du végétarien en donnant ce saloperie.
Mais alors, est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit exemple d'un plat végétarien concocté par vos soins et qui puisse donner envie à tout le monde?
Vous faites des lasagnes végétariennes. Vous faites là, on est en pleine... il va faire super chaud, vous faites des immenses salades composées.
Ah.
Avec des toasts à base de fromage, avec des trucs comme ça. Moi, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire?
C'est bon, c'est déjà pas mal.
C'est déjà un régal, Philippe.
Non, mais moi, je suis toujours en train de chercher. Je leur fais des trucs à base d'œufs, j'essaye de...
Merci pour eux, c'est formidable d'avoir l'engagement d'un chef de cuisine auprès de ses collégiens, parce que c'est chez vous que ça commence, l'éducation à l'alimentation, saine, ça commence, oui, vous avez raison, dès l'école primaire et maternelle. Tiens, il y a Basile, un boucher, qui nous écrit, on mange trop de viande industrielle, il faut défendre les vrais éleveurs et non les industriels de la viande. Ça rejoint exactement ce que vous nous dites, Philippe, ce matin. Merci, bon appétit.
Eh ben vous aussi, et bon week-end.
Et à bientôt, bon week-end. Philippe, salut. Il est 7h19, on est
à
ensemble.
À suivre dans la matinale week-end.
Dans un instant, la femme de la semaine, et elle s'appelle Mette Frederiksen, première ministre danoise, qui s'est fait aider de ChatGPT pour écrire un discours très marquant, vous allez le voir.
Oui, ce sera dans le portrait 2.4 dans une minute. À tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
7h20, bienvenue sur RMC, on vous accompagne, on vous informe, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin.
Oui.
On va sourire dans quelques instants avec le meilleur d'Arnaud Demanche, mais d'abord...
RMC, la matinale week-end,
le portrait du Poincar.
La personnalité qui a fait l'actualité de la semaine avec Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Et ce matin, c'est la première ministre danoise.
Elle a prononcé mercredi au Parlement un discours en partie écrit par une intelligence artificielle.
Oui, elle s'appelle Mette Frederiksen. Elle est à la tête du gouvernement danois depuis 4 ans et elle a prononcé donc un discours de politique générale, ce qu'elle a fait avec des phrases plutôt convenues comme « Nous avons travaillé dur pour assurer un avenir solide au Danemark » ou bien encore « Je suis fier de ce que nous avons accompli » blablabla, blablabla. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, elle s'est arrêtée et elle a révélé que tout ce qu'elle venait de lire, ce n'était pas d'elle, ni de ses collaborateurs. C'était donc un discours entièrement écrit par ChatGPT, l'intelligence artificielle disponible gratuitement depuis novembre. Et la Première ministre a commenté, ce texte n'a pas toujours mis exactement dans le mille, la ponctuation n'était pas parfaite, mais c'est tout de même fascinant et terrifiant, et c'est exactement ce qu'elle voulait faire, alerter sur cette technologie à la fois révolutionnaire mais dangereuse.
Ce n'est pas la seule qui alerte. Au Danemark, comment l'appelle-t-on cette première ministre? On la surnomme la Dame de Fer?
Oui, principalement en raison de sa politique sur l'immigration. Cette femme de gauche, depuis 4 ans, applique le programme le plus restrictif d'Europe sur l'accueil des immigrés, sur les expulsions ou sur les conditions drastiques pour obtenir la nationalité. Son objectif, c'est zéro réfugié et ça plaît aux Danois visiblement puisqu'elle a été largement réélue en novembre dernier. Elle vient de la gauche de la gauche. Elle a été députée à 24 ans, ministre à 34, première ministre à 41 ans. C'est la plus jeune de l'histoire du royaume. Son parcours ressemble un peu à celui de Birgitte Nyborg.
Ah,
Borgen.
Vous voyez qui c'est, la première ministre de la série Borgen, la meilleure série politique européenne. Comme l'héroïne de la série, elle a 2 enfants. Comme dans Borgen, elle est divorcée. Comme dans la série, elle vit très simplement. En réalité, elle aime les harengs en boîte avec de la sauce tomate et elle assiste régulièrement à des matchs de handball. Comme dans la série, enfin, elle s'est engagée à cesser d'exploiter les champs pétroliers en mer d'ici 2050, ce qui est exactement le thème de la dernière saison.
Ouais, exactement.
Mais Mette Frederiksen, en réalité, n'a pas inspiré les scénaristes puisque Borgen a été écrit et tourné plusieurs années avant son accession au pouvoir. Tout ça, ce ne sont donc que des coïncidences.
Son fils ne s'appelle pas Magnus, comme dans la série Borgen.
Bah presque, il s'appelle Magne.
Incroyable. Non, et comme quoi la réalité rejoint la fiction. Merci beaucoup Nicolas. Votre portrait à retrouver bien sûr en podcast sur l'appli RMC.
Allez, il est 7h23 et c'est l'heure de se marrer.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Le meilleur d'Arnaud de Manche, le samedi, le dimanche, c'est votre dose quotidienne d'humour, de bonne humeur sur RMC. Arnaud qui n'a pas manqué hier soir la fête des voisins.
La fête des voisins, c'est l'occasion de mettre enfin des visages sur des bruits. D'ailleurs, le Pavarotti qui habite à gauche, Bob le bricoleur à droite, la voisine du dessus qui élève des enfants qui ont des chaussures en plomb, on ne sait pas pourquoi, et surtout celui de la Gestapo en face.
Il dit, vous avez vu que la voisine du quatrième a encore laissé sa voiture sur la mauvaise place de parking. Une petite noire qui fait 2 mètres de large. Et là, je parle de la voisine.
Ah, oh, monsieur Raymond, elle vous entend, elle reprend de la salade de riz trop cuit. La fête des voisins, vous le savez peut-être pas, a été créé par Athanase Périfan. Et oui, c'est un humain, on dirait un nom de médicament. Oh, j'ai mal au ventre, t'as pris ton Athanase, et ben rajoute 2 grammes de Périfan. Pas du tout, c'est un monsieur. Et alors, je suis allé voir sa fiche Wikipédia, c'est marqué, je vous jure c'est vrai, Athanase Périfan crée la fête des voisins. Il en a l'idée lorsqu'il découvre, en février 97, une femme âgée morte depuis 4 mois dans son appartement. Oh, et ben c'est sympa. Ça lui donne envie de faire la fête.
C'est là que ça vient, mais la fête des voisins.
Ça lui donne envie de fêter ça. Oh, elle faisait chier tout l'immeuble depuis 40 ans, la vieille. On a sorti le mousseux. Bah, Athanase Périfan, j'aimerais pas l'avoir comme voisin, ce gars-là.
La fête des voisins. Vous faites, vous, ou pas la fête des voisins?
Mais non, moi, dans mon immeuble, ils sont pas drôles. Pas de banquet.
Voilà. Si vous êtes voisin de Marguerite Dumont, le message est passé. On retrouve Arnaud Demanche en podcast aussi sur l'appli RMC. Tiens, après la fête des voisins, les vacances entre amis. Mmh. Ça, c'est le nom de la campagne que lance aujourd'hui la fondation 30 millions d'amis pour éviter les abandons de vos amis, des animaux cet été. L'été se prépare dès maintenant pour vos chiens, vos chats et à Hutin. Et notre invité juste après le journal de 7h30.
Bonne journée à tous sur RMC.
Même si vous avez moins de soleil, vous êtes les bienvenus.
Il est 7h30 sur RMC. C'est l'heure du journal avec vous, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, en football, le chaos à Bordeaux et le soulagement au Havre. La Ligue 2 s'est conclue dans une ambiance mouvementée. Harcèlement sexuel, chauffeur agressif, les témoignages de jeunes femmes contre des chauffeurs VTC se multiplient.
Chiara a même porté plainte pour tentative d'enlèvement par un chauffeur. Elle témoigne ce matin en direct sur RMC, 8h10.
Et puis le clap de fin pour le sommet sur la pollution plastique. Un projet de texte est à l'étude malgré l'obstruction des pays pétrolier.
Du foot et le chaos à Bordeaux qui a peut-être dit au revoir à la Ligue 1.
Pourtant, tout était réuni pour que les supporters fêtent l'accession de leur équipe dans l'élite. Un match Bordeaux-Rodez comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 2. Mais après l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter bordelais, le match a été interrompu. Il n'a jamais repris. C'est la commission de discipline de la Ligue qui doit maintenant statuer. Ça sera en début de semaine. Mais les Girondins pourraient perdre sur tapis vert. Une soirée cauchemardesque. Nicolas Paolorsi.
Oui, 40 minutes d'interruption, d'incrédulité et d'abattement avant la prise de parole de l'arbitre Nicolas Rainville.
Les éléments sont probants et le joueur, puisque commotionné, ne pourra reprendre la rencontre. Nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas.
La stupeur est totale. Les joueurs bordelais sortent sur la pelouse. Le capitaine Johan Barbet en larmes. Le jeune Bokele inconsolable. Gérard Lopez, le président, ne compte pas en rester là.
On va porter plainte contre l'individu. J'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain, ça reste du foot.
L'avenir du club est en suspens avec des conséquences sérieuses sur les finances de Bordeaux, même si le maire Pierre Urmic se montre optimiste.
Je pense que les Girondins se relèveront. Ils ont été dans le passé des situations, dans le passé déjà tombées bas. J'ai l'espoir.
Une commission de discipline se réunira ce lundi pour décider de rejouer le match ou non. Après les dernières saisons dramatiques, Bordeaux vit des heures sombres une nouvelle fois.
Autre incident au Havre cette fois. Le match a là aussi été interrompu à quelques secondes de la fin. Mais les Havrais s'imposent finalement face face à Dijon, victoire 1-0. Ils retrouveront la Ligue 1 14 ans après l'avoir quitté. Dans l'autre match important du soir, Metz s'est imposé 3-2 contre Bastia. Mais les Messins vont devoir attendre la décision concernant le match de Bordeaux pour savoir si oui ou non ils retrouveront la Ligue 1 la saison prochaine.
Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres incidents ont éclaté aussi à Ajaccio, toujours en marge d'un match de football entre supporters corse et marseillais.
Alors la rencontre doit-elle se jouer ce soir, mais des affrontements ont eu lieu devant l'hôtel hier d'une soixantaine de supporters marseillais. Bilan, 4 blessés. Le maire d'Ajaccio est inquiet. Il a demandé l'annulation de cette rencontre. Les explications avec vous, Martin Cadoré.
Une violence qui pourrait prendre une ampleur incontrôlable. Ce sont les mots de Stéphane Sbradja, qui veut éviter que les 600 à 700 supporters marseillais attendus par bateau ne débarquent aujourd'hui. Car malgré l'absence d'enjeu de la rencontre ce soir, de premiers incidents ont déjà eu lieu hier soir. Incidents qui ont fait 4 blessés légers. Une soixantaine de supporters marseillais déjà présents dans un hôtel du centre-ville d'Ajaccio se seraient mis à jeter tout ce qui leur passait sous la main depuis les étages, selon le maire. Et en bas, des supporters ajacciens qui, à leur tour, vous l'entendez derrière moi, s'en sont pris aux fenêtres de l'hôtel, puis seraient allés agresser des supporters marseillais dans des bars de la ville. 2 arrêtés municipaux avaient pourtant été pris pour interdire le centre d'Ajaccio aux supporters marseillais. Certains pourraient venir sans billet pour le match et même sans logement prévu, alors même que la capitale corse accueille par ailleurs une importante fête locale. Il est encore temps de limiter la casse, plaide le maire, qui a demandé l'annulation du match à la fois au cabinet du ministère de l'Intérieur et à la préfecture.
Merci Martin Cadoré pour ces explications. Ajaccio OM donc, match comptant pour la 38e journée de Ligue 1, et le multiplex sera à suivre ce soir en direct sur RMC dès 21h avec cette question: qui sauvera sa peau en Ligue 1, Nantes ou Auxerre? 2 points seulement séparent ces deux clubs historiques du foot français. Auxerre reçoit Lens, Nantes Angers, et les matchs donc seront à vivre sur RMC.
Et en haut du tableau, en revanche, il n'y a plus de suspense.
Alors, Paris est déjà champion, mais Paris va devoir faire ses adieux ce soir au Parc des Princes à 2 joueurs et à l'entraîneur Lionel Messi, Sergio Ramos et Christophe Galtier, qui n'a pas été reconduit la saison prochaine. Une soirée d'adieu, mais il y en a un qui ne manquera visiblement pas aux supporters contre toute attente. C'est la star argentine Lionel Messi. Explication Arthur Perrault.
2 ans après, il ne reste rien de son arrivée en grande pompe. La rupture entre les supporters et Messi est totale. Nicolas et Julien soulagés du départ de la star argentine.
On vient plusieurs fois dans l'année au coin des loges, jamais il s'arrête de faire une photo avec les enfants. Il méprise les supporters, il méprise le Paris Saint-Germain, donc il s'en aille.
C'est affreux de dire ça, mais je suis content qu'il s'en aille. Pour moi, c'est une erreur de casting.
L'histoire d'amour entre Paris et Messi n'aura jamais vraiment commencé. Nonchalance, manque d'implication, le champion du monde a régulièrement été la cible des sifflets du Parc des Princes, malgré ses 21 buts cette saison. Pourtant, son entraîneur Christophe Galtier prend sa défense.
J'ose espérer qu'il sera accueilli la meilleure des façons. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation.
Pour se relancer, l'attaquant dispose d'offres aux États-Unis et en Arabie Saoudite. Barcelone rêve aussi de le faire revenir. Messi devrait faire son choix dans les prochains jours pour acter définitivement la fin de son aventure parisienne.
Paris qui recevra Clermont à 21h au Parc des Princes.
7h35 sur RMC. Nous en venons maintenant à cette plainte de cette jeune femme contre un chauffeur VTC.
Chiara, qui a porté plainte pour enlèvement et séquestration. Son chauffeur VTC aurait tenté contre son gré de l'emmener dans le nord de Paris voir des amis alors qu'elle voulait rentrer chez elle. Et les plaintes se multiplient. Les utilisatrices accusent les plateformes de réservation de ne pas prendre de mesures suffisantes. Reportage Nicolas Roper.
Harcèlement sexuel, chauffeur agressif ou insultant, Marie a connu plusieurs soucis avec des VTC.
Des messages d'insultes où il m'a dit de toute façon je sais où t'habites, avec plusieurs noms d'oiseaux, et pendant plusieurs mois j'ai eu très peur de rentrer chez moi seule.
Depuis, cette trentenaire appelle systématiquement un ami pendant ses trajets. Elle regrette surtout l'inaction des plateformes.
Le moyen le plus safe pour entrer chez nous sans se faire agresser, c'est finalement prendre le vélo, quoi. Donc c'est quand même triste à dire, et à chaque fois, à chaque incident, que ce soit moi ou des amis proches, quel que soit l'incident qui se soit passé, il n'y a pas eu de suite.
Accusée par des utilisatrices de ne pas assez les protéger, l'application Bolt répond prendre toutes les mesures nécessaires. Julien Mouilléquet, le directeur général de l'entreprise en France.
Ce sont des cas minoritaires, c'est très rare ce type d'événement. Par contre, ça ne remet pas en compte le fait que ces événements ne doivent jamais se produire. On a mis beaucoup de processus en place, comme le bouton SOS ou le partage de la position GPS.
La plateforme assure désormais utiliser l'intelligence artificielle pour limiter les usurpations d'identité des chauffeurs.
7h36 sur RMC, la fin du sommet sur le plastique hier à Paris.
Oui, un sommet et de timides avancées. 175 pays étaient pourtant réunis toute la semaine. L'enjeu est colossal. La production de plastique a doublé ces 20 dernières années. La communauté internationale s'est donnée jusqu'à la fin de l'année 2024 pour parvenir à un accord, malgré l'obstruction des pays pétroliers. Pour Charlotte Soulary de l'association Zero Waste France, il y a tout de même des raisons d'être optimiste.
On est soulagé quand même que la semaine se soit terminée sur la décision de travailler en intersession parce que ça aurait été catastrophique d'attendre 5 mois pour reprendre le travail. On a beaucoup d'espoir aussi sur la suite parce qu'on a entendu énormément d'États se mobiliser cette semaine pour notamment une réduction de la production plastique. Maintenant, évidemment, c'est un sentiment mitigé puisqu'on a aussi observé ces obstructions, on a aussi observé à quel point c'est compliqué d'obtenir que tout le monde soit d'accord sur des modalités. Donc oui, c'est assez mitigé.
Dans l'actualité également, cet accord trouvé entre la direction des magasins Barbaudet et les salariés. Après 2 mois de grève, les syndicats demandaient une augmentation de salaire. Ils obtiendront 100 euros net par mois. L'enseigne de puériculture a confirmé qu'elle ne sanctionnerait pas les 72 grévistes du groupe.
Et puis un tout dernier mot de rugby, puisque c'est jour de derby entre le Stade français et le Racing 92.
Une affiche entre les deux clubs franciliens pour un billet en demi-finale du top 14. Et ça se jouera dans la capitale, dans l'antre du Stade français, Jean Bouin. Pour le manager du Racing, il n'y a rien d'autre à envisager que la victoire.
Il ne faut pas rentrer dans le fait que ça soit le Stade français. Ce qui est important pour nous, c'est de combattre pendant 80 minutes pour pouvoir rester dans le train, pour pouvoir voyager à Saint-Sébastien. Si on perd, on descendra du train. Il y a 29 marches à monter, on en a fait 26. On va essayer encore de faire ce qu'il faut pour monter la 27e, la 28e et la 29e, pour pouvoir justement arriver à toucher ce que l'on veut tous.
Laurent Travers, le manager du Racing au micro RMC. Le match sera à vivre dès 14h en direct sur RMC. Le vainqueur affrontera en demi Toulouse. L'autre barrage, ce sera demain soir. Lyon accueillera Bordeaux-Bègles pour une place dans le dernier carré face à La Rochelle. Cette fois-ci, pas un cadeau non plus de jouer les champions d'Europe.
Merci beaucoup Stéphanie. C'était le journal sur RMC. Il est 7h38 très précisément et on est très heureux de passer ce samedi matin avec vous en votre compagnie. Il y a du soleil, c'est le week-end. On a un petit café à la main peut-être.
Oh bah ouais.
Allez, un croissant, soyons gourmands.
Le peuple. Ça donne envie de se plonger dans l'été, tout ça. Je sais pas vous, mais moi j'y pense déjà.
On y est.
Il paraît qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Il faut se préparer aux vacances, surtout pour nos amis les bêtes, bien sûr. Bonjour Réa Hutin.
Bonjour.
Présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Oui, il faut penser dès maintenant à nos réservations d'été pour nos chiens, nos chats, nos animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie aussi. Le départ s'anticipe pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On va en parler avec vous, Réa Hutin, dans 2 minutes sur RMC. À tout de suite.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Il est 7h42, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre, on est ravis de vous accompagner. C'est l'heure de penser aux grandes vacances d'été avec Réa Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis.
L'invité du jour.
Avec leur gnard mignon, mignard, leur beau matou, leur gros toutou, les pharisiens, les béotiens, les aoussiens. Dans leur auto roule presto, tombeau ouvert, descendant vers la grande mare, en passant par Montélimar.
Et on vous accueille en musique, Réa Hutin, ce matin, Brassens, Montélimar. Vous connaissiez cette chanson ?
Non, je viens de la découvrir. Mais Brassens, je connaissais bien, puisque on a des images de Mabrouk, le grand Mabrouk avec Brassens, qui était très copain avec lui.
Et Montélimar, cette chanson, pourquoi ? Bah, tristement connue, la ville de Montélimar, dans les années 50, à l'époque de Brassens, pour être le lieu où les automobilistes faisaient, vous savez, la dernière pause avant de se rendre aux vacances
sur la
d'été.
Nationale 7.
Exactement, et ils en profitaient pour abandonner leurs chiens, leurs chats sur le bord de la route. Ça a donné cette chanson de Brassens. Et d'ailleurs, je crois que les plus gros refuges de France se sont d'abord montés à Montélimar pour cette raison. Aujourd'hui, l'abandon des animaux en période estivale en France, c'est partout. Combien de chiens et de chats abandonnés chaque année, chaque été ?
On parle de 100 000 abandons annuels, dont 60 000 rien qu'en été. Mais l'observatoire mis en place par le gouvernement devrait pouvoir prochainement mesurer l'ampleur réelle de ce fléau. Parce que c'est la conséquence dramatique de la marchandisation des animaux. Les gens en prennent, ce sont des acquisitions compulsives sur un coup de cœur, en animalerie ou par petites annonces. Et ils ne se rendent pas compte, ils ne mesurent pas pleinement la responsabilité qui leur incombe d'avoir un animal. mal.
Il y a une loi qui est venue encadrer un petit peu plus tout ça, on va y revenir. Mais voilà pourquoi Réa Hutin, à la Fondation 30 millions d'amis, vous lancez aujourd'hui une campagne qui s'appelle Vacances entre amis. C'est d'ailleurs le même nom pour une plateforme internet, une appli smartphone pour éviter les abandons. On y trouve quoi sur cette plateforme ?
Écoutez, c'est la première plateforme multicritère pour organiser ses vacances. C'est véritablement un service qu'on veut rendre pour que les gens se rendent compte que c'est facile de partir en vacances avec son animal si on s'y prend à l'avance. On y trouve vraiment plein de conseils.
Concrètement, je veux partir en Bretagne du 15 juillet au 30 juillet. Je vais sur l'appli et ça va me proposer tout un tas d'hébergements où mon chien est accepté.
Absolument. Il y aura un moteur de recherche. Il faut que vous rentriez tous les renseignements. Quel type d'animal? Où est-ce que vous voulez vous rendre? Mer, montagne, etc. Et donc là, vous aurez par le chat bot et le chien bot des conseils tout à fait personnalisé au cas.
Oui, j'ai fait le test. On entre le prénom de son animal, l'âge, ce qu'il aime faire, pas faire, et on va avoir les meilleurs endroits. Il y a des vidéos aussi avec les questions que tous les propriétaires se posent. Comment les protéger des coups de soleil? Comment les rafraîchir les jours de canicule? Quelle alimentation? Combien de pauses faire sur les routes?
Mais via votre appli aussi, est-ce qu'on trouve des lieux où on puisse faire garder son chien aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité quand même de l'emmener ?
Oui, absolument. Mais là, vraiment, il faut faire attention parce que même si vous avez des adresses, il faut d'abord laisser votre animal, mettons, un week-end pour savoir comment se passe. Parce que c'est vrai qu'on a parfois des mauvaises surprises et qu'on ne peut pas contrôler tous ces endroits. Donc, c'est à nous d'aller voir comment ça se passe. Et en effet, on peut faire garder son animal lorsqu'on part en vacances.
Mais c'est un sacré budget aussi. Ça pourrait être intéressant d'avoir d'ailleurs des bons plans pour faire garder son animal sans exploser son budget, parce que en temps d'inflation, je pense que c'est aussi une grosse problématique pour les propriétaires d'animaux.
Sur les refuges, Réa Hutin, à la Fondation 30 millions d'amis, vous êtes partenaire avec 250 sites, vous les soutenez à hauteur de 3 millions d'euros. On parlait de cette loi de 2021 qui a renforcé les sanctions en cas d'abandon. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Est-ce qu'elle commence à faire ses effets? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de moins en moins d'abandons en France grâce à cette loi?
Vous savez, de moins en moins, ça va très doucement. Il y a 30 ans, on parlait de 400 000 abandons, donc c'est vrai qu'il y a un léger mieux. Mais malheureusement, en pratique, ces peines maximales ne sont jamais appliquées. C'est vrai qu'il faut vraiment durcir et appliquer ces lois. Mais je crois que ça passe surtout par la sensibilisation, comme vous le faites ce matin, en essayant de convaincre les gens que ce sont des êtres vivants et sensibles, qu'il faut qu'on... On ne divorce pas de son chien, on le garde jusqu'à la fin.
Réfléchissez-y avant de prendre un animal.
Voilà, et concertation en famille.
Comme le disait Marguerite, avec l'inflation, le prix des croquettes, il faut calculer le budget avant.
Absolument, il y a un budget conséquent quand même, et avec effectivement l'inflation, etc., les prix augmentent de toutes parts, et vraiment il faut prendre ça en considération.
Cette loi qui prévoit aussi l'interdiction de la vente de chiots et de chats dans les animaleries par des particuliers pour éviter là aussi les adoptions coup de cœur sans lendemain, vous voudriez que cette interdiction soit étendue aux chiens et aux chats adultes et puis aux NACs, les nouveaux animaux de compagnie? Pourquoi?
Mais absolument. Écoutez, c'est justement, quand vous allez par exemple dans un de nos refuges, vous êtes accueilli, on vous explique le drame qu'a vécu chaque chien, vous les connaissez, on vous donne des conseils, alors qu'en animalerie, c'est de la marchandisation. Vous rentrez comme dans un supermarché et vous achetez un chien. Comme ça. Donc, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'il faut vraiment que lorsqu'on prend un animal, il faut que ce soit réfléchi et qu'on soit accompagné dans cet acte. Parce qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, finalement, à leur premier chien. Donc, c'est vraiment essentiel de les accompagner, de leur expliquer. Et c'est pour ça que je dis, il vaut mieux aller dans un refuge parce qu'au moins, vous verrez les conséquences dramatiques d'un abandon. Vous verrez ces animaux qui ont vécu sur le canapé chez des gens, etc. et qui tout à coup se retrouvent derrière des barres héros. Donc je crois que c'est une véritable prise de conscience que lorsqu'on veut un compagnon, on y réfléchisse vraiment et puis qu'on aille dans un refuge, même si après on veut aller dans un élevage pour prendre un chien de race parce que on en a envie. Bon, non, aller d'abord dans un refuge et regarder le drame que ça peut être pour un animal de se retrouver comme ça derrière des barreaux. Et je crois que c'est vraiment essentiel.
Et pour avoir aussi tous ces bons conseils pour bien préparer votre été si vous êtes déjà propriétaire, je rappelle donc votre campagne, votre plateforme internet, votre appli smartphone qui porte le même nom, Vacances entre amis, par la Fondation 30 millions d'amis. Merci beaucoup, Réa Hutin, président de cette fondation, d'avoir été notre invité ce matin sur RMC. Bonne journée.
À suivre dans la matinale week-end.
On va pédaler aussi vite que l'inflation pour cette journée mondiale du vélo. Je m'explique. Prêt à taux zéro, atelier d'auto-réparation. En bref, on va s'équiper sans se ruiner.
C'est le coup de main conso. Et c'est dans une minute. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Allez, 8h10, vous êtes sur RMC, on vous espère en bonne forme. Bienvenue si vous ouvrez les yeux.
Madonna pour vous accueillir.
Jusqu'à 9h. Oui, on va s'écouter un peu de Madonna dans 2 minutes. Ce sera dans le bonus de Peggy Broche. Mais d'abord,
RMC, le coup de main conso.
Votre coup de main, Marguerite, en l'occasion de cette journée mondiale du vélo, on va rouler à petit prix parce que les offres, les coups de pouce ne manquent pas. Et le dernier en date, c'est ce prêt vélo à taux zéro, lancé par le Crédit Mutuel. Qu'est-ce que c'est ?
C'est inédit, un prêt sans intérêt ni frais de dossier pour faciliter l'achat de tout type de vélo. On rappelle les prix pour du neuf ? De qualité, évidemment. Autour de 500 euros pour un mécanique, 2000 pour un électrique, 6000 euros pour un cargo, c'est valable pour les familles. Voilà pourquoi la somme prêtée est conséquente, nous explique Daniel Ball, ancien cycliste et directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Jusqu'à 6000 euros pour les particuliers, jusqu'à 10000 euros pour les professionnels. La durée de remboursement peut aller jusqu'à 48 mois, c'est-à-dire 4 ans.
Je vous laisse faire vos petits calculs. Pour les démarches, pas besoin d'être client de la banque. Il suffit de pousser la porte d'une agence qui propose ce crédit et ensuite...
Nous demanderons bien évidemment une facture d'acquisition du vélo et comme il se doit, une étude de faisabilité pour vérifier la capacité de remboursement du crédit.
Ouverture du prêt le 12 juin et jusqu'au 31 décembre 2024 au moins.
Et est-ce que je peux souscrire à ce prêt si je veux acheter un vélo, mais d'occasion ?
Oui, et heureusement, parce que soyons honnêtes, ça reste de grosses sommes, même avec un crédit. Il faut juste une facture d'un vendeur pro. Par exemple, si vous allez sur Le Bon Coin ou sur Vinted, ça marche pas. N'oubliez pas aussi les aides de l'État dont vous pouvez bénéficier. Ça peut être utile. Entre 300 et 2000 euros pour le bonus vélo cumulable avec des aides régionales et la prime à la conversion pour un vélo électrique.
Bon, une fois que j'ai mon prêt, que j'ai acheté mon vélo, comment bien l'entretenir pour qu'il dure longtemps et sans dépenser trop si c'est possible?
Et là, j'appelle notre duo de techniciens du vélo, Priscilla Petitjean de l'atelier de l'Audace à Lyon, Éric Joly des ateliers solidaires Solicycle en Île-de-France. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marguerite.
Bonjour Marguerite.
Premier conseil, garez votre vélo à l'abri pour le préserver le plus possible. Ensuite, on s'occupe de la transmission.
Mettre un petit peu d'huile sur la chaîne, très fluide, hein. Faut pas mettre de beurre ou d'huile d'olive. Toutes les deux, trois semaines.
Et pour les roues ?
Garder ses pneumatiques bien gonflés. À partir du moment où ils commencent à être dégonflés, c'est le moment où il y a des fissures, des crevasses qui apparaissent et ça augmente très fortement le risque de crevaison.
Si vous avez un doute sur une réparation, pas d'hésitation, prenez tout de suite la direction des ateliers d'auto-réparation.
On voit de plus en plus de monde venir sur nos ateliers d'auto-réparation pour au moins savoir faire le BABA, changer une chambre à air, contrôler la pression des pneus, savoir quand est-ce qu'il faut mettre de l'huile, quel type d'huile.
Ces lieux sont géniaux. Je suis allée faire une petite visite pour une adhésion minime à votre dispo, des outils, des pièces détachées, des conseils aussi de bénévoles, mais aussi de pros. Attention, par contre, il faut accepter de plonger un peu la tête dans la mécanique.
Si vous y allez une fois tous les trois mois, vous n'allez pas avoir d'acquisition de compétences. Les réparations que vous allez mettre en place ne risquent de pas forcément tenir dans le temps. Et ça risque d'être assez frustrant pour vous.
Pour vous y mettre, rendez-vous sur le site du recyclage heureux, comme quelqu'un qui est heureux, où vous retrouverez une carte interactive avec tous les ateliers d'auto-réparation près de chez vous, évidemment.
Et sur le site d'RMC.fr, tout votre coup de main conso. Merci Marguerite, il est 8h05.
Le bonus RMC.
C'est avec vous Peggy Broche et on est sur un duo incroyable, The Weeknd avec Madonna pour la BO d'une série.
Et oui, exactement, The Weeknd, c'est ça. Ou encore ce titre. C'est l'artiste incontournable de ces dernières années, The Weeknd, chanteur, mais aussi acteur, puisqu'il tient l'un des premiers rôles dans la série The Idol aux côtés de Lily Rose Depp, la fille de...
Johnny.
Merci.
Et Vanessa Paradis.
Exactement. Et sachez que...
N'hésitez pas.
Hein. Les deux premiers épisodes ont été diffusés à Cannes. Bon, les critiques sont pas terribles, mais il y a surtout la BO qu'on attend. La bande originale de cette série dans laquelle il va chanter. Et il va chanter, entre autres, aux côtés de Madonna. Le titre s'appelle Popular. Ça sent le tube à plein nez. The Weeknd dit avoir toujours voulu travailler avec Madonna. Il espère que ce n'est que l'apéritif. On lui souhaite le menu complet avec Madonna.
Ça ouvre l'appétit. Vous avez bien raison, Peggy Broche. Madonna, on adore. The Weeknd est bienvenue dans la matinale Weeknd RMC pour nous réveiller.
Merci beaucoup, Peggy. Ils viennent quand ils veulent.
Il est bientôt 8h. Les infos arrivent et votre météo de ce samedi. Beaucoup de soleil. À tout de suite.
La matinale Weeknd.